Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Je rentrais de mes journées de travail, en fait j'étais vidée. J'étais vidée de mon énergie, je partais avec une dose d'énergie à peu près à moitié le matin, et quand je rentrais j'étais à zéro ou en négatif, quoi. Donc j'arrivais pas à gérer la fatigue de mes enfants, j'arrivais pas vraiment, quand il y en avait un qui mettait une goutte de compote de travers sur la table, ça me faisait péter un plomb. J'ai toujours dit, mon job passera toujours après mes enfants. Et en fait, à cause de ce job, j'étais en train de les sacrifier eux et de sacrifier la qualité du temps que j'avais avec eux. Et vraiment, ça n'en valait pas la peine, quoi. Alors, je m'appelle Gabrielle, j'ai 33 ans et je suis rentrée en école de sage-femme cette année en septembre, après 10 ans chez L'Oréal. Alors, j'ai grandi en Auvergne, en fait, dans une famille assez, dans un milieu assez préservé, je dirais. J'ai grandi dans une petite ville, vraiment très proche de la campagne, etc. J'ai vécu là-bas pendant 19 ans. Et ensuite, je suis partie à Grenoble faire mes études à Sciences Po. Et j'ai été diplômée, donc, en 2009, de Sciences Po Grenoble et de Sciences Po Lille. J'ai fait un double master avec une spécialité, donc, en communication. Voilà. Je suis partie de chez mes parents et je suis partie faire ces études parce que j'avais envie justement de sortir de ce cocon. Et donc mon rêve, c'était de vivre à Paris. C'était de vivre à Paris et de travailler en entreprise. J'avais envie de bien gagner ma vie pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir être libre. Voilà. Donc mon moteur principal, c'était ça à l'époque, en fait. Je sentais que pour sortir de moi, pour réussir à aller plus loin et à me dépasser, il allait falloir que je me confronte à un milieu plus difficile. Je suis rentrée chez L'Oréal en CDI, j'avais 23 ans. J'ai rencontré mon conjoint chez L'Oréal et ça a été une très belle rencontre. Et on a très vite eu donc notre fille qui est arrivée 2 ans après. Donc quand j'ai soufflé mes 30 bougies, j'avais mes 2 enfants, j'avais donc un mari. Mes premiers objectifs de vie, je les avais remplis. J'avais le niveau de vie suffisant pour être libre, pour faire des beaux voyages, des beaux week-ends. Enfin, j'étais devenue quelqu'un qui faisait partie des gens privilégiés, quoi. Et en fait, malgré tout, au fond de moi, il me manquait un truc énorme qui était être vraiment fière de ce que je fais, sentir que surtout ce que je fais est utile. À l'époque, je me levais le matin, je lisais l'actu sur le réchauffement climatique, sur la crise écologique. Je lisais ça et puis moi, j'allais travailler chez L'Oréal où je rentrais dans un milieu qui me semblait être une bulle complètement à part, en fait. Quand je dézoomais à l'échelle de la société, je me disais, mais si demain il y a une catastrophe naturelle ou si demain il y a une guerre et que tout ça s'arrête, que voilà, moi je sais rien faire d'utile, en fait, pour les gens. Et ce décalage-là, il est devenu de plus en plus douloureux, en fait, dans les 3 ans qui ont constitué mon dernier job chez L'Oréal. Et j'ai commencé à avoir un petit peu la pression au moment où mes enfants ont commencé à parler, ma fille a commencé à s'intéresser et j'avais la peur qu'elle me demande « Mais c'est quoi toi ton métier, en fait, maman ?» J'étais terrifiée de ça parce qu'en fait, je me disais « Mais pourvu qu'elle me pose cette question le plus tard possible, parce que je ne suis pas à l'aise dans le monde qui s'ouvre là et dans le monde dans lequel elle va vivre, de lui raconter que moi, ce que je fais, c'est de la communication pour une grande marque de shampoing, quoi. » Et je trouve que quand on n'est pas à l'aise de répondre à un enfant, c'est que globalement, on met le doigt sur quelque chose qui va pas du tout, quoi. Je me sentais enfermée dans la vie que j'avais voulu et que je m'étais battue pour construire, quoi. Donc, ça paraît être un problème de riche, un petit peu, je pense, d'être d'être dans cette crise de sens qu'il y a beaucoup de gens qui traversent, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'y attaquer. Et donc pendant 5 ans, j'ai cherché comment faire mon métier, c'est-à-dire comment garder tout ce que j'avais fait chez L'Oréal, etc., et tout ce que j'avais appris, comment aller le mettre au service d'une cause qui était plus importante pour moi. Donc j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment sur cette question du changement climatique et du changement de société, etc. Et à chaque fois que je m'imaginais directrice de communication ou responsable de communication, mais chez Greenpeace, en fait, c'était un peu plus aligné, mais j'avais absolument pas le déclic. Et je me disais à l'époque, je me souviens très bien, je disais en fait, je suis sûre que je suis bonne pour quelque chose et que c'est pas ce à quoi je suis en train de penser. Et j'aimerais qu'on me montre ce que c'est. Voilà. À l'époque, donc j'étais pas totalement bien dans mes pompes, et pour remplir ce vide, je faisais effectivement des achats compulsifs et je mangeais beaucoup. Je mangeais beaucoup parce que c'était ma forme de plaisir immédiate, quoi. Et donc j'avais pris beaucoup de poids. Et ça, ce poids, je pense que j'avais même pas vu à quel point j'avais grossi, mais j'avais vraiment 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce moment-là où je me suis rendu compte que je commençais à cacher un peu de la bouffe et à manger un peu à la va-vite des choses comme ça pour me faire un petit shot de plaisir, etc. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai symptôme du fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout à l'intérieur. Voilà. Et puis, la nervosité avec mes enfants le soir. Je leur disais, on est tous fatigués le soir, mais en fait, eux aussi, ils étaient fatigués, et entre les deux, c'était moi l'adulte. Donc, c'était pas normal que ça soit moi qui leur demande de prendre en compte ma fatigue. Ça aurait complètement dû être l'inverse. Et j'avais pas le réservoir pour gérer ça à l'époque. C'était de la faute de personne. Ma vie était pas difficile, mais moi, j'étais pas au bon endroit. Voilà. Je me suis dit, là, il faut que tu t'occupes de cette reconversion, quoi, de ce que t'as vraiment envie de faire. Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir exploré tout ce que je peux explorer pour accoucher de moi-même, et pour autant, je n'ai toujours pas la solution. Au gré de mes lectures, de choses, je tombe sur un article de blog, en fait, d'une blogueuse qui interviewe en fait une astrologue, qui raconte son approche de l'astrologie, que je trouve en fait extrêmement moderne, et cet article m'interpelle vraiment. Je sens qu'il faut que je consulte cette astrologue, donc ça a l'air complètement zinzin comme ça, mais à l'époque, je me dis, en fait, foutu pour foutu, au pont j'en suis. Franchement, pourquoi pas l'astrologie, quoi. Et donc, je consulte cette astrologue et je lui explique mon problème. Et elle me dit assez rapidement, oui, l'écologie, l'environnement, tout ça, c'est des sujets qui vous touchent parce que vous venez de là un petit peu par votre famille, mais c'est pas du tout ça votre mission. Et elle me dit, c'est pas écrit noir sur blanc, mais pour moi, vous êtes thérapeute, quoi. À ce moment-là, en fait, je rigole parce que je me dis, mais... Enfin, c'est une évidence, elle a complètement raison. Et comment je peux être activement dans une recherche de moi-même depuis 5 ans sans avoir moi-même compris ça, quoi. Et elle me dit même, c'est rigolo parce que vous avez vraiment le parfait thème d'une sage-femme, quoi. Et à ce moment-là, là, je rigole, mais je rigole en lui disant, non mais n'importe quoi, vraiment, moi, vous me voyez sage-femme. Enfin, vraiment, ça me paraît un peu ubuesque. Là, je me dis, elle a été un peu trop loin. Et en fait... J'avais oublié cette partie-là, j'avais oublié qu'elle m'avait parlé d'être sage-femme. Mais donc je ressors de cette consultation en me disant, ok, être thérapeute c'est extrêmement large, donc qu'est-ce qui moi me ressemble, quoi. Pendant 6 mois, je réfléchis à ce qu'elle m'a dit. Et en fait, la révélation, elle est venue en décembre de l'année dernière, donc il y a exactement 1 an en fait. En revenant à cette problématique de ce que je fais aujourd'hui n'est pas utile, je me suis dit, en fait, moi, si demain c'est vraiment le chaos, ce que je veux savoir faire, c'est aider les femmes à donner la vie, quoi. Et c'était assez évident, et je me rendais pas compte d'ailleurs que depuis quelques années, quand les gens me disaient « mais si t'avais pas de barrière, qu'est-ce que tu ferais ?», souvent je répondais « mais si j'avais aucune barrière, j'ouvrirais des maisons de naissance, quoi ». Mais je disais ça comme j'aurais pu dire « si j'avais pas de barrière, je serais cosmonaute ». Enfin, ça me semblait bien sûr génial et tout à fait me correspondre, mais ça me semblait totalement irréaliste. 6 mois plus tard, je reviens vers cet astrologue et je lui dis « en fait, tu vas pas le croire, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et j'ai trouvé vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être sage-femme ». Mais en fait, ça me fait une belle jambe parce que je peux pas le faire, quoi. Et donc, elle me dit, pourquoi tu peux pas le faire? Et je lui dis, tu te rends pas compte, je peux pas reprendre 4 ans d'études, je peux pas ne pas avoir de salaire, je peux pas financer une école, je peux pas... Et donc, elle me dit, note toutes tes barrières et tu les prends une par une, en fait. Et tu regardes s'il y a pas des solutions. Assez rapidement, donc à l'époque, je me renseigne et je me rends compte qu'il existe un concours pour les gens qui n'ont pas fait donc médecine et qui ne viennent pas d'un milieu médical. Et je me rends compte à ce moment-là que je suis éligible, en fait, que je remplis tous les critères. Ça ouvre une première porte. La deuxième porte, ce volet financier-là, il était très important pour moi parce que c'était mon frein principal. J'avais très peur de, bah ouais, de, du déclassement. On ne pouvait pas vivre juste sur le salaire de mon mari, en fait. J'étais OK de troquer des belles vacances contre un changement, mais à tous les gens qui me disaient « l'argent, c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est de se trouver », je rigolais en leur disant « mais moi, je ne paye pas mon loyer en chèque de kiff, en fait, en chèque de plaisir et d'alignement à la fin du mois ». Mais les problèmes financiers que je m'inventais, en fait, ce n'étaient pas des vrais problèmes. J'ai commencé à noter tout ce que je dépensais par mois. Et là, j'ai vu l'étendue de la cata de mes achats compulsifs à ce moment-là. Suite à une frustration, parfois, chez L'Oréal, je recevais un email pourri et je me disais « non, mais là, ça me saoule, je vais acheter une robe ». Enfin, c'est caricatural, mais c'était exactement comme ça que ça se passait, en fait. J'achetais des habits et j'achetais des coussins. Et mon mari me disait « mais en fait, arrête d'acheter des coussins, on n'a qu'un seul canapé ». On va arrêter avec les coussins, c'est plus les foutre. Donc, alors au début, je notais ce que j'achetais. Et après, j'ai eu une autre stratégie qui était de noter ce que j'avais envie d'acheter et puis d'attendre le lendemain pour voir si j'en avais toujours envie, etc. Et à la fin du mois, je faisais le montant de tout ce que j'avais pas acheté. Et généralement, en fait, je n'achetais pas les choses dont j'avais eu envie la veille. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, j'avais une énorme marge financière que je dilapidais, en fait, dans des choses inutiles. J'avais les cheveux très blonds avant, je faisais des mèches, j'ai complètement arrêté de faire des mèches, j'ai laissé repousser mes cheveux. J'ai retrouvé ma couleur naturelle de cheveux que j'avais pas vue depuis 15 ans, je pense. Et tout ça, ça a été assez significatif aussi dans le changement. Je suis revenue à une forme de raison dans mes dépenses, dans... Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des mèches blondes et d'aller chez le coiffeur? Bah, la réponse est non. Est-ce que ces fringues que j'achète, elles m'apportent quelque chose dans ma vie? La réponse est bien évidemment non. Et ça, c'est un peu fou quand j'y pense. Donc en fait, ces solutions, elles sont venues. Donc là, j'ai eu 6 mois où vraiment j'ai carburé. Ça a été un vrai sprint pour me mettre dans la course du concours qui était quand même très sélectif, qui était un concours donc sur dossier. Et j'ai su donc en mai que j'étais admissible à l'oral. Voilà, du concours. Donc au départ, on était une centaine, ils en prenaient 10 à l'oral, et puis à l'issue de l'oral, on était 4 à être retenus pour les écoles de Paris et d'Île-de-France. Et donc en juin dernier, la porte s'ouvre. Je raconte ça avec beaucoup de joie, et on a l'impression que c'est un parcours bien sûr pavé de joie et de retour à soi qui est génial, mais ça... ça va forcément avec aussi beaucoup de peur. Moi, j'ai traversé des moments de peur, mais intenses, où je me suis vraiment dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et particulièrement quand j'ai su que j'étais reçue au concours, en fait. Quand j'ai su que j'avais réussi le concours, pendant 2 minutes, j'ai envoyé des textos à mon mec, à mes amis qui étaient au courant, en disant « c'est dingue, je suis prise ». Et après ces 2 minutes, je suis tombée dans un trou qui a duré, je pense, 48 heures, vraiment, où j'étais absolument terrifiée. De ce que j'avais créé, quoi. Alors là, je suis en deuxième année d'école de sage-femme, donc pour moi, c'est la première année d'études. C'est l'année qui est la plus compliquée, c'est pour ça que je dis que j'ai encore tout à réussir et tout à prouver dans ces études, parce que particulièrement ce premier semestre est extrêmement compliqué. Si tout va bien, en 2023, je serai diplômée, j'aurai mon diplôme de sage-femme, ouais. Et je me sens dans ma puissance, je me sens au bon endroit. Et même si j'ai du stress pour mes études, en fait, quand je rentre le soir, mon niveau d'énergie, il est encore plus élevé que quand je pars le matin, quoi. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Je rentrais vidée, alors que là, je rentre totalement remplie. J'avais rencontré une sage-femme à l'époque où je me posais la question de passer le concours, qui m'avait dit « sage-femme, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. C'est une mission, quoi. » Et moi, je l'aborde exactement comme ça. Il y a quelque chose d'un peu mystique dans le fait d'être sage-femme, moi, je trouve, aujourd'hui. Les sages-femmes, c'est des passeuses, quoi, vraiment. On est la première personne à voir arriver un enfant au monde, quoi. Et ça, je l'ai découvert vraiment quand j'ai fait mes stages d'observation au moment du concours. Le premier accouchement auquel j'ai assisté, j'étais dans un état de... Ouais, un peu d'extase, parce que quand ça se passe bien, c'est extraordinaire, quoi. Et c'est aussi, je dis quand ça se passe bien, parce qu'en fait, c'est aussi un métier où on est à la frontière entre la vie et la mort, où quand même tout est assez fragile. Et d'être à cette porte-là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Souvent, les femmes, quand elles parlent de la naissance de leurs enfants, même encore 30 ans plus tard, elles se rappellent de la porte de la sage-femme ou de la porte de cette personne qui leur a tenu la main à ce moment-là. Et donc, on a un vrai rôle à jouer. Et puis, ce sentiment d'utilité qui est immense, quoi.
C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Clazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.